RFI 5h30 en temps universel, 6h30 à Kinshasa. Toute l'actualité africaine avec Pierre Boudias. Bonjour Pierre.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
À la une, la RDC ferme les vannes du cobalt.
Le Kinshasa suspend pour 4 mois l'exportation de ce minerai rare indispensable aux batteries rechargeables. Les autorités entendent peser sur des prix en baisse, vous l'entendrez. La tension s'aggrave au Soudan du Sud. L'opposition accuse les autorités d'avoir bombardé un de ses camps hier. Des accrochages qui se multiplient et mettent en péril l'accord de paix signé en 2018. 20 ans de prison requis contre l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, accusé de détournement de fonds lors de son mandat. Ses avocats dénoncent des accusations fallacieuses, critiques balayées par les parties civiles. Et puis l'aide au développement international cherche son second souffle. Plus de 500 banques publiques se retrouvent en Afrique du Sud à partir d'aujourd'hui. Le désengagement de l'agence USAID sera dans tous les esprits. En République démocratique du Congo, le cobalt va donc rester au pays, un minerai rare indispensable à la fabrication de batteries rechargeables et dont la RDC assure 75% de la production mondiale. Et les acheteurs internationaux vont devoir se fournir ailleurs. Pendant un moment, Kinshasa suspend pendant 4 mois ses exportations. Explication Caroline Perret.
Jamais depuis 2016, le cobalt avait été vendu aussi bas sur le marché mondial. Un peu plus de 20 000 dollars la tonne en ce début d'année contre 80 000 en 2022. Un manque à gagner énorme pour la RDC puisque le cobalt constitue 15 à 20% de ses exportations. C'est donc pour essayer de faire remonter les prix que la RDC a décidé de suspendre les exportations pour 4 mois via son autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques. Il y a un an déjà, le président congolais Félix Tshisekedi avait évoqué pendant un conseil des ministres la possibilité d'introduire des quotas d'exportation pour le cobalt. Espérons que les coûts remontent aussi pour une meilleure rémunération des creuseurs artisanaux, indique Eric Kalala, le directeur de l'entreprise générale du cobalt, une filiale de la compagnie publique Gécamines. Mais cette décision suffira-t-elle? D'autant que la surproduction qui explique la baisse des prix a augmenté depuis que l'un des géants du secteur, le groupe chinois Simoc, a inauguré une deuxième mine en RDC en 2023. Coralie Pierret, Kinshasa RFI.
Le cobalt, toujours au cœur de discussions entre Kinshasa et Washington. La semaine dernière, le président Tshisekedi avait évoqué des discussions avec les États-Unis concernant les minerais stratégiques dans le pays. Des ressources au cœur de la guerre menée par le M23, selon la présidence congolaise, la RDC, qui accuse le groupe et ses soutiens rwandais de piller les minerais et de les revendre aux Occidentaux. Et dans ce contexte, le Royaume-Uni passe à la vitesse supérieure dans ses sanctions contre le Rwanda. Londres se dit une nouvelle fois préoccupée par la situation dans l'est de la RDC et adopte un nouveau train de mesures contre Kigali. Le gouvernement britannique a suspendu hier la majorité de ses aides financières, excepté celles à destination des plus démunis. 18 millions d'euros seront par ailleurs débloqués pour venir en aide aux personnes impactées par le conflit dans l'est de la RDC. Une décision regrettable selon Kigali, qui juge non raisonnable de lui demander de faire des compromis avec sa sécurité nationale. Fin de citation. L'accord de paix au Soudan du Sud, de plus en plus fragilisé. 7 ans après la signature du texte qui a instauré un partage du pouvoir entre le président Salva Kiir et l'opposant historique Riek Machar, les tensions ne cessent de monter dans le pays. Malgré les appels au calme, les accrochages se multiplient entre les forces militaires des deux camps un peu partout sur le territoire. Hier, l'opposition a dénoncé le bombardement d'une de ses bases militaires par l'armée sud-soudanaise au nord-est du pays. Les précisions avec Florence Mietto.
Tôt dans la matinée, les images d'un hélicoptère militaire ont circulé sur les réseaux sociaux évoquant un bombardement sur le comté de Oulang dans le Haut-Nil. Le porte-parole de l'armée d'opposition de Riek Machar a ensuite dénoncé sur Facebook, puis dans la presse locale, une violation commise par l'armée sud-soudanaise. Des points de rassemblement des forces armées d'opposition ont été, selon leur porte-parole, bombardés par l'armée gouvernementale. Dans un communiqué, le porte-parole de l'armée sud-soudanaise n'a pas confirmé le bombardement, mais évoquait une opération de surveillance aérienne. Selon lui, depuis 2 semaines, l'armée d'opposition et la White Army, une milice de bergers nuaires, ont mobilisé un grand nombre de forces. Ils auraient l'intention d'empêcher un déploiement de l'armée sud-soudanaise à Nassir et d'attaquer le comté de Baliet, toujours selon le porte-parole de l'armée. Déjà, de violents combats avaient éclaté à Nassir les 14 et 15 février, opposant l'armée sud-soudanaise aux jeunes nuaires armés. L'ONU se dit très préoccupé par les rapports indiquant une escalade dans le Haut-Nil et appelle au calme. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Des tensions qui font craindre un scénario similaire à celui que vit le voisin soudanais. Après 2 ans de guerre civile, l'armée régulière annonce s'être emparée du pont de Souba à Khartoum, un axe stratégique puisqu'il mène au centre administratif de la capitale soudanaise aux mains des paramilitaires des forces de soutien rapide. Depuis le début de ce conflit civil, l'armée espère maintenant couper le ravitaillement des forces du général Hemeti qui ont concentré de nombreuses forces dans ce quartier où se situe notamment le palais présidentiel. On votait hier au Tchad. Les conseillers municipaux et les conseillers provinciaux étaient appelés aux urnes pour élire leurs sénateurs. Selon les résultats provisoires de l'Agence nationale des élections, le parti au pouvoir l'emporte à une écrasante majorité. Le mouvement du salut patriotique obtient 45 des 46 sièges. Les 23 sénateurs restants seront nommés par le président de la République. Un scrutin qui met fin au cycle électoral de fin de transition, 4 ans après la mort du maréchal Déby Itno. RFI, il est 5h36 à Nouakchott, la Mauritanie, où l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz risque gros dans son procès en appel pour détournement de fonds publics et enrichissement illicite durant son mandat. Le procureur général a requis hier une peine de 20 ans de prison contre l'ancien chef d'État, peine bien plus lourde que les 5 ans de détention dont il avait écopé en première instance en décembre dernier. Du côté de la défense, on continue à réfuter ces accusations et à remettre en cause la compétence de la Cour pour juger l'ex-président. Des arguments balayés par Maître Lo Gourmaud, avocat de la partie civile. Au micro de Paul Lorgerie, il dénonce un système Aziz.
Cette question de l'incompétence a été réglée déjà depuis le premier juge. Depuis, on rappelle que là, on est en instance d'appel. L'enjeu du débat, c'est comment cet enrichissement illicite du chef de l'État s'est déroulé, dès lors que les déclarations qu'il avait faites n'ont rien à voir avec les biens qui ont été saisis. Et donc, l'explication qu'il avait donnée de cet enrichissement, étant que ce sont des chefs d'État étrangers, sans qu'ils donnent des noms, ni les conditions, ni pourquoi ils ont donné cet argent-là, c'est cela l'élément essentiel de l'accusation. Plus maintenant, le blanchiment, c'est-à-dire le fait qu'il ait reçu cet argent, qu'il ait pu le réinsérer dans les circuits sans passer par la Banque centrale, sans même qu'il y ait la moindre transparence sur la manière dont cet argent-là a pu accéder au territoire national, sans parler évidemment du fait que des marchés publics ont été faits à son instigation et qui ont favorisé des personnes de son entourage immédiat. Donc, toute chose qui montre qu'il a fait trafic d'influence. Il y avait un véritable système Aziz de prise des biens de l'État au service exclusif de sa famille, quoi, ou de sa parentèle.
Maître Lo Gourmaud, avocat des parties civiles dans le procès de Mohamed Ould Abdelaziz, au micro de Paul Lorgerie. Aucune date de verdict n'a pour le moment été communiquée. Les avocats de la défense s'exprimeront à leur tour la semaine prochaine. En Tunisie, 8 personnes condamnées à mort dans l'assassinat de Mohamed Brahimi. Cette figure de la gauche avait été tuée par balle en juin 2013 devant chez lui, le jour de la fête nationale. Il était alors l'un des plus fervents critiques des islamistes d'Ennahda, alors au pouvoir. Les condamnés ont notamment été reconnu coupable d'avoir perpétré un crime visant à changer la nature de l'État et à inciter au désordre sur le territoire tunisien. Plus de 70 membres des Chebab tués en Somalie, résultat d'une opération menée par l'armée et les forces locales, ont annoncé hier les autorités de Mogadiscio. L'opération a eu lieu dans la région d'Irchabel, dans le centre-sud du pays. Plusieurs caches d'armes auraient également été saisies. Ces attaques interviennent en réponse à des assauts menés par les islamistes radicaux ces 2 derniers jours dans ces mêmes zones. Des milliers de manifestants ont défilé hier à Ligongwe, au Malawi, pour protester contre la flambée des prix qui paralyse la capitale. L'inflation galopante est aggravée par un manque de devises étrangères, poussant les commerçants vers le marché noir. Face aux tensions, le gouvernement a promis des solutions, mais les manifestants restent pour l'instant sceptiques. Et dans ce contexte, quel avenir pour l'aide au développement international? La question est au cœur du sommet Finances en commun qui débute aujourd'hui en Afrique du Sud. Plus de 500 banques de développement se retrouvent pendant 3 jours. Elles prêtent à des États pour mettre en place des projets de santé, d'éducation, encore de lutte contre le changement climatique. Après Paris, Rome, Abidjan et Carthagène, le sommet a lieu au Cap sous le thème de la croissance inclusive, du développement durable et du changement climatique. Dans un contexte où l'aide au développement est mise à mal, notamment par les États-Unis, Valentin Hugues.
Le contexte américain ne pourra pas être ignoré. Depuis son investiture le mois dernier, Donald Trump a décidé de geler les aides américaines, dont le continent africain était été le principal bénéficiaire. On parle de plus de 11 milliards de dollars en 2024 via l'agence de développement américaine USAID, forcée d'arrêter brutalement ses activités. Alors dans de nombreux pays africains, des établissements de soins couvrant par exemple le VIH ont dû baisser le rideau. Et parmi les plus gros bénéficiaires en matière de santé, on retrouve l'Afrique du Sud, pays qui accueille donc ce sommet Finance en commun qui débute aujourd'hui avec plus de 500 banques de développement du monde entier réunies au Cap. Et alors que l'avenir du développement est largement perturbé par ces décisions américaines soudaines, pendant 3 jours, l'heure sera au renforcement des partenariats, à la signature d'accords, mais aussi et surtout à cette réflexion sur l'avenir de l'aide au développement. Et puis en parallèle du sommet, les ministres des Finances des pays du G20, présidés par l'Afrique du Sud, se rassemblent eux aussi au Cap pour une première réunion de travail, réunion boudée par les États-Unis. Valentin Hugues, le Cap.
La productivité des entreprises.
Et parmi les organisateurs de ce sommet, l'Agence française de développement, son directeur général Rémy Rioux sera l'invité de Christophe Boisbouvier dans un peu plus d'une heure. Économie toujours à Madagascar. Un rapport publié hier par la Banque mondiale détaille les multiples difficultés rencontrées par les entreprises du secteur privé. Délestage à répétition, mauvais état des routes et faible accès au financement plombent leur productivité, alors même qu'elle est considérée par les économistes comme une clé du développement à l'origine de nouveaux emplois et de meilleurs revenus. Les explications sont signées Guillaume Fabry.
La productivité des entreprises n'a cessé de diminuer à Madagascar au cours des 2 dernières décennies, si bien que la richesse moyenne créée par un travailleur malgache est parmi les plus faibles au monde. Les entreprises ne pourront se développer sur la grande île tant qu'elles subiront des coupures d'électricité quotidiennes, insiste Atousek, représentant pays de la Banque mondiale.
Aujourd'hui, vous pouvez avoir de l'électricité, dans 2 heures c'est coupé, et c'est pas prévisible. Et une entreprise a besoin d'une énergie stable, fiable et pas chère pour pouvoir produire et surtout innover. Donc, nous travaillons avec le gouvernement pour redresser la situation et ça va donner des résultats dans le moyen terme.
Les entreprises malgaches souffrent aussi d'un faible financement. Seuls 8% d'entre elles déclarent avoir accès à un prêt bancaire. Autre obstacle à la productivité, ces entreprises ont aujourd'hui le plus grand mal à trouver des travailleurs qualifiés, affirme Lilia Rangiamfidimanan, présidente du jeune patronat de Madagascar.
L'entrepreneur est censé tout savoir à Madagascar parce qu'il y a très peu de compétences qui sont disponibles. Donc, moi, par exemple, je suis dans l'immobilier.